Page 194. Document sonore numéro 7. Activité 201, 202 et 203.
Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus si nombreux pour écouter cette conférence qui a pour titre « Influer sur la réalité informatique par la pensée, c'est aujourd'hui possible ». Comme vous savez, pouvoir influer sur la réalité physique par la pensée est l'un des vieux rêves de l'humanité. Eh bien, ce fantasme de science-fiction est devenu réalité grâce à notre équipe de chercheurs qui travaille sur des interfaces reliant le cerveau humain à la machine. C'est ainsi que 4 de nos patients, dont 2 étaient atteints de la paralysie suite à une lésion de la moelle épinière, ont réussi à déplacer un curseur de souris sur un écran d'ordinateur par la seule force de leur pensée. Alors, il est vrai que depuis quelques mois, d'autres scientifiques étaient parvenus à des résultats semblables, mais c'était par le biais d'une technique très invasive. Cette technique consistait à placer une centaine d'électrodes minuscules directement dans le cerveau afin de détecter l'activité de neurones dans le cortex moteur qui contrôle le mouvement corporel. Les ondes cérébrales étaient ensuite traduites sous forme de mouvements grâce à un logiciel informatique. C'est ainsi qu'en octobre dernier, une puce a été greffée dans le cortex d'un patient tétraplégique de 24 ans. Cette puce, qui était connectée à une centaine de ses neurones, lui a permis de surfer sur Internet et de jouer à des jeux vidéo par le simple contrôle de la pensée. Mais le problème de cette technique, c'est que ces chercheurs ne savent pas que l'effet pourrait entraîner la présence d'électrodes dans le cerveau à plus long terme. Pour notre équipe de chercheurs, le contrôle par la pensée se passe d'un plan. Nous n'avons pas eu besoin d'ouvrir le crâne de nos patients pour obtenir le même résultat, et cela principalement grâce à un logiciel novateur de traitement de l'activité du cerveau. Laissez-moi vous expliquer notre méthode. Dans la première phase, nous utilisons un casque qui est doté de capteurs capables d'enregistrer les signaux électriques naturellement émis par le cerveau. Ces signaux sont interprétés par des logiciels qui les retranscrivent sur écran. Les électrodes qui sont utilisées pour l'enregistrement de l'activité du cerveau sont simplement collées sur le cuir chevelu, comme lors d'un électroencéphalogramme classique, ce qui a l'avantage d'éviter une intervention chirurgicale lourde et risquée. Dans la deuxième phase, les informations sont recueillies par imagerie par résonance magnétique, ou IRM fonctionnelle, qui détecte les variations d'oxygénation du sang liées à l'activité neuronale afin de localiser les régions cérébrales impliquées dans des fonctions comme le mouvement, le langage ou la mémoire. Au final, ces informations se traduisent en ordre capable de déplacer le curseur d'un ordinateur. Alors en pratique, que fait le patient? Eh bien, il est simplement invité à se concentrer sur des actions distinctes, comme calculer, imaginer un mouvement, se remémorer quelqu'un ou quelque chose. Et chacune de ces actions est associée à un déplacement précis du curseur. Ce procédé a été testé sur 4 volontaires. Bien sûr, il nécessite encore quelques perfectionnements. Il a notamment fallu plusieurs semaines d'entraînement aux patients pour faire bouger le curseur de la souris. Et même si cela nécessite des moyens financiers énormes, je tiens à souligner l'extraordinaire potentiel de ces expériences qui, à terme, pourraient aider des personnes paralysées. Cette technique leur permettrait, par exemple, de retrouver une autonomie certaine grâce à l'utilisation d'appareils à distance. Elle leur permettrait aussi d'améliorer leur communication grâce au clavier virtuel ou encore d'améliorer leur déplacement grâce à des moyens de locomotion mus par la pensée. Maintenant, osez imaginer le nombreux développement de ces techniques pour les années à venir. Imaginez que les interfaces cerveau-ordinateur permettent à des machines de savoir qui nous sommes. Et oui, certains scientifiques avancent que les signaux émis par le cerveau de tout à chacun sont uniques, comme les empreintes digitales. Ils estiment donc qu'il serait possible de s'authentifier en se contentant de penser à son mot de passe. Ces « pensées de passe », entre guillemets, permettraient ainsi d'éviter les risques de vol et d'usurpation de mot de passe. Et même, imaginez qu'il serait également possible de choisir comme mot de passe non pas une suite de chiffres et de lettres, mais un son ou un souvenir, ce qui rendrait d'autant plus difficile la prédiction et le cassage des mots de passe. Pour finir, je vous signale que ce domaine de recherche est en pleine expansion. Alors qu'en 1999, on ne comptait que 21 laboratoires dans le monde travaillant sur le sujet, il y en a aujourd'hui plus d'une centaine. Preuve s'il en est que la science peut réaliser les rêves d'enfants les plus fous. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté et j'attends vos questions.
Page 195. Document sonore numéro 8. Activité 204, 205 et 206. Les voitures de demain seront incontestablement intelligentes. Et dans cette course à l'intelligence, l'interface homme-machine jouera un rôle déterminant. Les constructeurs et les ingénieurs rivalisent en effet de créativité pour que les voitures deviennent de véritables partenaires pour leurs chauffeurs. Leurs objectifs ? Prévenir les accidents et améliorer le trafic. Rencontre avec deux fous géniaux, Marc Chanfrein, ingénieur, et Yves Belliot, constructeur automobile. Tout d'abord, Marc Chanfrein. Alors, vous avez inventé une voiture qui se gare toute seule.
Eh bien, en effet, nous développons actuellement une voiture qui est équipée d'un système d'aide au stationnement. Avec ce système, le Parkmate, se garer, va devenir un jeu d'enfant.
Alors, expliquez-nous comment fonctionne ce système.
Eh bien, ce système s'occupe tout seul de trouver une place de stationnement libre et de tourner le volant pour orienter la voiture vers cette place libre. Bon, plus techniquement, des capteurs ultrasons sont placés sur les côtés de la voiture. Ils balayent latéralement les accotements afin de trouver une place de stationnement disponible. Alors, le conducteur est prié de s'arrêter. Et en plus, la voiture est équipée d'un système de navigation qui garantit qu'il s'agit bien d'une place de stationnement vide, pas d'un croisement ou d'un embranchement.
Et le conducteur n'a rien à faire.
Si, mais pendant la manœuvre, c'est vrai qu'il n'a qu'à lire sur un afficheur les actions à effectuer. Avancer ou reculer, vite ou lentement. Et tout se fait de manière électronique, grâce aux capteurs qui sont présents sur les pare-chocs avant et arrière de la voiture et qui déterminent les distances par rapport aux autres véhicules et aux obstacles. Ainsi, le conducteur ne doit actionner que l'accélérateur et le frein. Et en plus, il y a un signal sonore qui avertit des obstacles.
On voit bien quels sont les avantages d'un tel système.
Ben oui, car en comparaison d'un conducteur moyen, le Parkmate est plus rapide et il utilise aussi de façon optimale les places de stationnement. L'assistant électronique permet donc de se garer sans stress et sans accident. Sachez en plus qu'il suscite déjà un grand intérêt pour les constructeurs automobiles qui vont probablement le produire en série à partir de 2008.
Très bien. Alors, je crois savoir que vous aussi, Yves Belliot, vous avez travaillé sur le problème du parking.
En effet, nous avons tenté de trouver une réponse au dilemme quotidien du conducteur qui est devant une place de parking ou dans mon garage. Si j'entre en marche avant, je devrais forcément repartir en marche arrière. Avec notre nouveau concept, retournement de situation, nous avons créé une voiture qui a plus d'un tour dans son sac. Je m'explique. On se gare en marche avant, et au moment de redémarrer, l'habitacle pivote de 180 degrés, l'arrière devient l'avant, et Aventi ! Et bien sûr, l'habitacle est aussi adapté pour que l'arrière devienne l'avant, afin de repartir du bon pied.
Mais dites-moi, vous ne planchez pas que sur des projets de voitures délirantes. Par exemple, je sais que vous, Marc, vous cherchez à développer un système de prévention de la fatigue au volant.
Oui, en effet. On veut développer une méthode de détection qui réagit dans plus de 90% des cas d'endormissement. L'objectif de notre système, c'est de reconnaître aussitôt que possible la fatigue du conducteur. Je vous explique comment il fonctionne. Grâce à notre système, l'attention du conducteur et son comportement sont surveillés en permanence à l'aide de plusieurs capteurs. D'un côté, une caméra infrarouge suit les mouvements des paupières et la direction du regard. De l'autre, un capteur mesure avec quelle force les mains serrent le volant. En plus, le système enregistre les écarts sur la route et la distance au véhicule précédent. Toutes ces données sont ensuite envoyées à un ordinateur. Alors, si les yeux du conducteur se ferment de fatigue ou si l'écart avec la voiture précédente devient trop faible, l'alarme s'enclenche. Un vif triangle lumineux dans le rétroviseur s'allume et une voix invite le conducteur à faire une pause. On espère commercialiser ce dispositif dans 3 à 4 ans.
Et vous, Yves Belliot, vous allez plus loin en inventant une voiture à mémoire visuelle qui retrouve toute seule son chemin.
Eh oui, une voiture capable de retrouver toute seule un chemin qu'elle a déjà parcouru, ce n'est déjà plus de la science-fiction. Nous voulons permettre à des véhicules autonomes de se repérer dans des ruelles étroites des agglomérations. Nous avons donc développé un dispositif de navigation dans lequel le cerveau de la voiture est un ordinateur de bord et les yeux sont une caméra fixée à l'avant du véhicule.
Vous voulez dire qu'après un simple trajet de repérage, votre cybercar peut retrouver toute seule son chemin?
Oui, tout à fait. Dans une première phase, un chauffeur conduit la cybercar pendant que la caméra embarquée enregistre un film du parcours que l'engin devra effectuer plus tard en mode autonome. Et dans la seconde phase, le véhicule étant à l'arrêt, l'ordinateur de bord procède à un travail sur les images qui sont contenues dans sa mémoire. Le cerveau du véhicule construit ainsi petit à petit une carte des points remarquables du parcours qu'il va ensuite comparer en continu avec les points observés par la caméra au cours de la troisième étape, qui est le déplacement.
Merci à vous deux de nous avoir exposé l'essentiel de vos recherches, mais la question qui se pose est quand même la suivante. Notre usage de l'automobile peut-il s'aseptiser comme les chercheurs et les constructeurs semblent le penser? Page 196, document sonore numéro 9, activité 207, 208 et 209.
Pensez au fait que 60% du corps humain est constitué d'eau. Bon, vous admettez forcément que c'est une ressource précieuse. Mais si je vous pose la question, quelle est la valeur des 3000 litres d'eau qui servent à cultiver la nourriture qu'une personne consomme en moyenne chaque jour? Qu'est-ce que vous répondez, hein? Vous ne pouvez pas répondre. C'est normal, parce qu'il n'y a pas encore de réponse à cette question. En plus, il y a tout juste 15 ans, c'était une question purement théorique, quand l'eau était encore considérée essentiellement comme un bien public gratuit ou tout du moins bon marché. Mais cette année encore, la France a été touchée par la sécheresse. 52 départements ont ainsi été frappés par des restrictions d'eau. Et nous savons aujourd'hui que les principales causes de cette sécheresse sont d'un côté les conditions climatiques et de l'autre l'utilisation excessive de l'eau. L'eau est aujourd'hui, en France, un bien commun inégalement réparti, un bien inégalement respecté et inégalement exploité. Le secteur agricole représente 70% des prélèvements nationaux de sources naturelles. Or, de tous les secteurs qui utilisent l'eau douce, c'est l'agriculture qui a la plus faible rentabilité économique. En plus, le secteur agricole bénéficie d'un traitement de faveur. On met à disposition gratuitement de plus grandes quantités d'eau pour l'irrigation agricole à l'aide d'aménagements coûteux, alors que dans le même temps, on interdit aux particuliers d'arroser leurs jardins. Nous estimons que la lutte contre le gaspillage est l'affaire de tous et chacun de nous doit apprendre à être économe dans sa consommation d'eau. Aussi, c'est dans ce contexte de pénurie d'eau croissante, d'intensification de la concurrence des usagers industriels et domestiques et de l'alarme lancée sur la dégradation des écosystèmes qu'il devient fondamental pour nous d'attribuer une valeur marchande à l'utilisation de l'eau. Nous, les amis de la Terre, nous demandons donc une nouvelle loi sur l'eau responsable. Nous demandons que soit créé un marché de l'eau réglementé qui traiterait l'eau comme une denrée économique. Nous partons du principe que, quand l'eau est offerte comme bien gratuit, la demande est supérieure à l'offre. Alors, nous ne doutons pas qu'un marché réglementé de l'eau équilibrera l'offre et la demande. Et peut-être même que dans certains cas, cela atténuera les effets néfastes pour l'environnement de la surexploitation. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il ne faut pas accorder trop d'importance aux expressions monétaires de la valeur. Mais devant la politique actuelle du deux poids, deux mesures, nous exigeons que des cadres d'estimation de la valeur de l'eau soient mis en place afin de conférer une valeur égale aux utilisations économiques, sociales et environnementales de l'eau. Et pour une bonne estimation de la valeur de l'eau, il faut forcément faire intervenir toutes les parties prenantes. Ces parties prenantes sont les gouvernements, les agriculteurs et les citoyens, qui deviendront ainsi les moteurs principaux dans la gestion des ressources hydriques. Nous voyons l'estimation de valeur de l'eau essentiellement comme un moyen pratique d'aider les groupes à exprimer les valeurs attribuées aux biens et services liés à l'eau et à les aider à harmoniser leurs demandes d'eau. Ainsi, l'estimation économique de l'eau doit se faire dans une optique participative. Et au bout du compte, ce sont les parties prenantes qui devront parvenir à un accord sur le partage des bénéfices et des coûts liés aux différents mécanismes de gestion de l'eau. Nous estimons que seule cette solution nous permettra de changer notre regard sur le bien le plus précieux, l'eau.
Page 197, document sonore numéro 10. Activité 210, 211, 212 et 213.
Ouais, non, je t'avais pas dit. Là, tout à l'heure, on y allait avec tout le groupe, on a signé un contrat avec une maison de disques. Donc, on leur avait filé la maquette, là. Et puis, bon, bah voilà, ça leur a plu. Donc, on va pouvoir commencer à vendre les CD et tout ça.
Ah, c'est génial, je vais pouvoir télécharger tous tes titres sur Internet.
Bah non, faut mieux pas télécharger. En plus, si tu veux, nous, comme on est un petit groupe, c'est un tout petit truc, donc on va pas vendre beaucoup de CD. Si tous les gens commencent à télécharger,
bah non,
on
mais plus pour vous, CD, c'est un quoi. Moyen de vous faire connaître, justement. Enfin, c'est un tremplin, Internet, tout le monde peut y aller.
Ouais, mais c'est à la limite, tu vois, je veux bien que les gens puissent écouter un bout sur Internet, mais le télécharger, tu veux, si nous on fait quelques CD, on édite quelques CD que personne les achète parce que tout le monde les télécharge, comment on fait après?
Mais en même temps, les CD en France,
on peut plus continuer à produire.
Il faut avouer que c'est trop cher, enfin 20€ un CD, c'est énorme. Quand t'es jeune, que t'as pas beaucoup d'argent, c'est très très difficile.
Bah oui, mais en même temps, voilà, t'es pas obligé d'avoir toute la musique qui se fait sur Terre. Enfin, tu vois, tu peux avoir tes groupes préférés, acheter un CD.
Mais justement, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. La musique, pour moi, c'est une passion. C'est vraiment une passion. Mais justement, enfin, un jeune de 15 ans, il est nécessairement tenté. Et puis, enfin, on sait très bien qu'il y a pas tellement de gros pirates. C'est surtout des petits pirates. Ça se passe comme ça.
Excusez-moi, non, mais je vous entends parler là.
Oui.
Ce qui m'impressionne, c'est que vous vous rendez pas compte que à chaque fois que vous piratez, vous êtes en train de faire qu'il n'y aura plus de création. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre.
C'est que les artistes sont en danger.
C'est-à-dire, comment voulez-vous payer les artistes à partir du moment où vous ne les payez pas? Donc on ne créera rien de nouveau et bah, tout le monde téléchargera des choses qui ont été faites il y a très très longtemps.
D'accord, non, mais je comprends bien votre argument, mais ce qui se passe, c'est que ces personnes qui téléchargent illégalement, elles veulent bien payer, mais à condition, dans ce cas, que ce soit vraiment beaucoup moins cher. Parce que ce qui est proposé actuellement, c'est entre 13 et 20 euros pour 13 titres, alors qu'on n'a ni le CD ni la pochette. Enfin, c'est évidemment trop cher, c'est beaucoup trop difficile à gérer.
Mais tout ne coûte pas la même chose. Moi, je vais vous donner un exemple. À un moment donné, vous êtes dans une bibliothèque. Vous avez un droit d'entrée, hein, c'est le problème de le peer-to-peer, là, c'est quoi finalement? On vous dit, vous payez tant d'euros, vous entrez dans cette bibliothèque, vous prenez le livre que vous voulez. Mais tous les livres n'ont pas la même valeur. Vous allez pouvoir prendre à la fois un livre de poche, mais peut-être un livre d'art qui vaut extrêmement cher. Vous trouvez ça normal?
Non, puis en plus, si on prend l'exemple de la bibliothèque, on consulte. C'est-à-dire que là, maintenant, les gens, après, ils ont tout sur leur ordinateur. Ils n'ont même plus besoin, une fois qu'ils l'ont, sans avoir même payé. Ils ont
plus
tout gratuit,
c'est-à-dire
que là, Internet devient une espèce de zone, une zone infinie, zone de non-droit.
Oui, mais non, ce qu'on peut dire, plus qu'une zone infinie, c'est encore
plus de contrôle.
Plus qu'une zone infinie, Internet, il me semble que c'est surtout une zone libre, à savoir que tous les gens qui aiment la musique se rencontrent, peuvent échanger, on peut découvrir des nouveaux artistes. Enfin, c'est une chance énorme.
Il y a des
petits artistes qui n'ont pas le droit, qui n'ont pas les moyens pour avoir des CD, et Internet, c'est le seul moyen pour eux de se faire connaître.
C'est un moyen de se faire connaître. Très bien, mais d'un autre côté, à ce moment-là, ça veut dire que effectivement, on ne pourra plus payer les musiciens pour faire des studios. De quoi vont-ils vivre?
Puis avant,
c'est très gentil, ça, mais de quoi ils vont vivre ceux que vous piratez?
Est-ce que, par exemple, le magnétoscope a empêché les gens d'aller au cinéma ou quoi? C'est faux, c'est pas vrai, ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a encore autant de gens qui vont au cinéma malgré le magnétoscope.
Mais le problème maintenant,
ça veut bien dire que la musique par rapport à ça, c'est le même genre de situation.
Oui, maintenant, les gens ont les films avant qu'ils sortent. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire que vous allez voir une nouveauté au cinéma. Si tout le monde l'a piraté avant, si tout le monde connaît l'histoire et vous raconte la fin de l'intrigue avant, à la limite, vous n'allez pas aller au cinéma. Et le problème, il est là, parce que c'est la musique, mais c'est aussi le cinéma. Mmh. Le cinéma coûte particulièrement cher. Faire un film, ça vaut particulièrement cher. À un moment donné, si ça ne rapporte plus aux producteurs, aux auteurs, etc., de faire des films, ben, ils en feront plus. Donc qu'est-ce qu'on fera? On se téléchargera des films qui ont été faits il y a 20 ans, il y a 30 ans, du temps où il y avait du cinéma, parce qu'il n'y en aura plus. À un moment donné, on va tuer toute création, tout simplement parce qu'on ne peut plus payer ceux qui font cette création. Donc c'est une liberté, ça a l'air d'une liberté d'un côté, mais oui, on peut dire que le vol est une liberté. C'est-à-dire que j'entre quelque part, je décide que dans cette boutique, je prends ce que je veux. Effectivement, c'est une grande liberté pour moi, mais c'est un vol pour les gens qui ont acheté les objets qu'ils vendent dans la boutique.
Mais c'est vrai qu'il y a une banalisation énorme de la gratuité, à savoir qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a entre 8 et 12 millions d'internautes qui téléchargent en France. Enfin, c'est bien qu'il n'y a pas assez d'informations suffisantes pour se rendre compte que c'est une effraction. Enfin, je veux dire,
oui.
Tout le monde fait ça.
Ben, c'est bien et le problème, c'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience que s'ils veulent demain des créations, il faut qu'ils acceptent de payer quelque chose aujourd'hui.
C'est pas tellement un manque d'information, c'est plutôt un laxisme qui fait que les gens téléchargent en disant oui, mais c'est de toute façon moi je vais jamais me faire attraper, voilà, ça sera toujours un autre. Mais bon, voilà, c'est de toute façon les gens téléchargent, c'est assez simple. Hein. Là, au début, ils vont recevoir juste un mail qui va leur dire bon bah écoutez, on a vu, parce que de toute façon les fournisseurs d'accès peuvent vérifier un peu ce qu'on fait, en disant bon bah là vous avez téléchargé un peu trop tout ça, il faut s'arrêter, c'est interdit.
Oui,
s'il récidive, il va recevoir une lettre commandée, tout ça. Et puis en plus, La sanction, elle est proportionnelle à...
Non, ça c'est faux. La sanction, elle est énorme. La sanction pour le téléchargement illégal, elle est beaucoup trop grande. Enfin, je veux dire, les internautes risquent 30 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement.
Bah oui.
Si c'est pas disproportionné, ça.
C'est pas disproportionné parce que le nombre de gens que ça va mettre en faillite, si on laisse tout télécharger, pour la musique, pour le cinéma, pour etc., ça va mettre tellement de gens en faillite. C'est une situation tellement grave que, au contraire, je trouve que ce sont des amendes tout à fait insuffisantes. Il faut des sanctions plus fortes.
Non, puis en plus, c'est proportionnel au volume. C'est-à-dire que si quelqu'un télécharge, je sais pas moi, des heures, des jours, même ça peut se calculer en jours maintenant, des jours de musique.
Mais ça, je suis pas sûre, parce qu'on peut voir que même les juges vont du côté des internautes, parce qu'ils ne peuvent pas sanctionner tout le monde, et du coup, ils nous soutiennent sur ce plan-là.
Oui, mais je crois que ça va beaucoup changer.
J'espère, parce que sanctionner tout le monde.
Il faut sanctionner davantage. Je sais pas quel métier vous faites, mademoiselle.
J'ai aucun respect pour le créateur.
Vous êtes ingénieur, par exemple. Ben voilà, vous venez, moi, j'ai une boîte, j'emploie des ingénieurs comme vous, mais à la fin du mois, je vous dis, écoutez, au nom de la liberté, je me sers gratuitement de votre travail de ce mois-ci. Conclusion, je ne vous paye pas. Écoutez, rentrez chez vous, on est en bon terme, hein, c'est normal, c'est ça la liberté. Vous pensez que c'est un monde qui peut exister, ça? Moi, pas.
Épreuve type. 1. Domaine. Lettres et sciences humaines. Sujet 1. Page 199. Document sonore numéro 11. Activité 214.
Des repères pour choisir son psy. Dépression, phobie, problèmes de couple. Aujourd'hui, aller chez le psy est devenu moins tabou. En voici quelques témoignages. Élise, 35 ans, a suivi pendant un an une psychothérapie qui l'a beaucoup aidée.
Cela faisait 6 mois que je vivais une grosse déprime, sans parvenir à m'en sortir. J'ai pensé plusieurs fois à voir un spécialiste. Mais je n'arrivais pas à en parler avec mon entourage. Car j'avais peur que l'on me prenne pour une folle. Je n'avais pas encore compris que c'est une démarche que l'on décide seule. Puis un jour, une amie a raconté son expérience de psychothérapie devant moi. Et cela m'a aidée à franchir le pas. J'ai suivi une psychothérapie cognitive et comportementale, associé à un traitement médicamenteux, un antidépresseur et des anxiolytiques. J'ai compris peu à peu ce qui me faisait souffrir et à quel point j'étais faible face à mes peurs. J'avais en plus des exercices quotidiens effectués entre chaque rendez-vous. 2 ans après, je ressens encore les bienfaits de cette thérapie. Cela m'a définitivement aidée à faire plus attention à moi, à me protéger face aux surmenages et aux agressions extérieures. J'ai repris confiance en moi et j'ai accepté mon passé, mes échecs personnels et professionnels. Le plus important est de trouver le thérapeute à qui on a envie de parler. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer si on ne se sent pas en confiance.
Annie, 55 ans, a suivi une longue psychanalyse. Une cure qu'elle décrit comme une rencontre avec soi-même.
C'est un énième chagrin d'amour qui m'a vraiment décidée à faire la démarche. Cette rupture a été l'occasion de me rendre compte de ce qu'est la véritable solitude. Je me suis retrouvée seule face à mes angoisses enfouies, ma peur de vieillir et de mourir. Cela devenait obsessionnel et m'empêchait même d'élever mon fils. J'en voulais à la vie. Je pensais encore que le bonheur dépend des autres, alors qu'il ne dépend que de soi. Suivre une psychanalyse est très difficile, car souvent on a l'impression que l'on n'a rien à dire, que l'on n'avance pas. Et pourtant, c'est tout un travail qui se fait en nous. Des portes s'entrouvrent et on se découvre petit à petit. Il faut accepter tout ça, quitte à briser l'image que l'on a de soi. Je crois que la séance la plus dure que j'ai connue était la première. Je ne savais pas par quoi commencer, et en même temps, j'avais l'impression de n'avoir rien à dire. C'est un bouleversement énorme, mais ça vaut la peine. Cela fait 12 ans que j'ai suivi cette psychanalyse qui a duré 10 ans en tout. Si aujourd'hui je ne regrette rien, je me garde bien de conseiller cette thérapie à quelqu'un. C'est une décision très personnelle.
David, 29 ans, a consulté pendant 8 mois.
Il y a 5 ans, j'ai éprouvé le besoin de voir un psy. J'avais des angoisses importantes, des peurs récurrentes. Je n'arrivais plus à faire face aux problèmes. J'ai senti que je ne m'en sortirais pas tout seul. Quand je l'ai annoncé à mes proches, ils ont tous été surpris car j'avais gardé tout ce mal-être à l'intérieur de moi, depuis trop longtemps justement. J'ai choisi d'aller consulter un spécialiste à la fois psychiatre et psychothérapeute. Le côté médecin me rassurait, même si je savais que c'était une psychothérapie que j'allais suivre avec lui. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 29 ans. Voilà comment a commencé ma première séance, assis dans un fauteuil. J'ai mis du temps avant de m'allonger sur le divan. Puis un jour, mon psy m'a dit « C'est bon, on peut s'arrêter là ». J'avais le sentiment d'être arrivé au bout. Ma psychothérapie a été très brève, elle n'a duré que 8 mois. Il faut du courage pour admettre que l'on va mal, mais il en faut aussi pour se dire que l'on va bien, que l'on va pouvoir vivre sans la béquille que peut représenter le psy.
Jeannine, qui vient de Plomelin, dans le Finistère, nous dit
« De toute façon, il faut se faire diriger par son généraliste avant. C'est là que le bas blesse. Comment voulez-vous parler d'autre chose que de votre tension, arthrose, digestion, un généraliste débordé ? Vous devez déjà être assez valide pour faire les 10 kilomètres qui vous séparent en conduisant votre voiture. Tout ça pour un renouvellement de somnifères que vous prenez depuis 30 ans. Si les Français sont les champions des tranquillisants et des antidépresseurs, c'est bien parce que c'est plus simple pour les médecins de leur en prescrire que de les écouter. Sans compter que ces médicaments ont tellement d'effets secondaires qu'après avoir été remboursés par la Sécu, ils finissent à la poubelle.
Jean-Pierre de Saint-Berthevin, Mayenne, est la dernière personne que nous avons interrogée.
À l'affût du moindre tourment de l'âme, avec un malin plaisir de se faire souffrir, on devient vite client pour le psy. L'analyse, l'auto-analyse, s'étudier, s'observer, etc. Mais laissons donc nos mois tranquilles et regardons ailleurs. Une bonne cure au resto du cœur comme bénévole, ça vous guérit la délectation morose sans auto-analyse.
Vous aurez remarqué que tout le monde n'est pas d'accord, mais le désaccord est encore plus grand chez les thérapeutes.
Depuis 2 ans, de nombreuses polémiques agitent le milieu des psys français. Fin 2003, le fameux amendement Accoyer déterre l'âge de guerre et les querelles de chapelle s'étalent au grand jour. Second épisode, en février 2004, l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, publie un rapport qui tente d'évaluer 3 types de psychothérapie. La psychanalyse, les thérapies cognitives et comportementales, dites TCC, et les thérapies de couple et familiales. Résultat de l'expertise, l'efficacité de la TCC est mise en valeur par rapport à la psychanalyse. Les 2 démarches sont en effet très différentes. La thérapie comportementale et cognitive, importée des États-Unis au début des années 1980, est une forme de rééducation d'un comportement inadapté, une phobie par exemple. Le thérapeute définit avec le patient les buts à atteindre par étapes pour résoudre son problème. La psychanalyse, héritée des travaux de Sigmund Freud, se base sur l'inconscient. C'est une méthode de traitement des désordres psychiques qui utilise la parole. Le mécontentement des psychanalystes fut tel qu'un an après la sortie du rapport INSERM, Philippe d'Houste-Blazy, alors ministre de la Santé, le désavoue publiquement. Mais la polémique continue d'enfler chez les psys, avec en septembre dernier la sortie du livre noir de la psychanalyse qui prône clairement l'abandon de l'analyse, soulignant les dégâts qu'elle peut faire au bénéfice de la TCC. La réponse ne s'est pas fait attendre. L'anti-livre noir de la psychanalyse vient de sortir en librairie. Pierre Angèle, psychiatre et professeur de psychopathologie, estime que ce sont des querelles d'école qui révèlent une lutte vis-à-vis de l'usager, chaque école prétendant évidemment laver plus blanc que blanc. Une chapelle contre une autre qui se dispute un territoire qui a le vent en poupe, celui des thérapies de l'âme. En effet, si le débat actuel se focalise sur l'analyse et la TCC, il existe en réalité plus de 200 thérapies différentes. Difficile donc d'affirmer avec certitude que telle approche est meilleure qu'une autre. Le succès d'une thérapie dépend avant tout du trouble, de son intensité et de la personne concernée. Alors, voici quelques pistes pour vous y retrouver. Consulter un psy est devenu une démarche courante qui se justifie lorsque le niveau de souffrance ressenti par la personne est trop élevé et que les troubles perdurent. Les motifs de consultation les plus fréquents sont les troubles de l'humeur, épisodes dépressifs, les troubles anxieux, agoraphobie, troubles paniques, phobie sociale, anxiété, et les syndromes psychotiques, délire chronique, schizophrénie. Selon une étude de la Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques, DREES, publiée en 2004, 11% des 36 000 personnes interrogées ont connu un épisode dépressif au cours des 2 semaines précédant l'enquête. Le psychiatre est le seul qui ait droit au titre de médecin, car il est diplômé de la faculté de médecine après une spécialisation, Bac plus 10. De fait, il exerce sous le contrôle du Conseil national de l'Ordre des médecins et soigne les troubles mentaux ou psychologiques. Il est le seul à pouvoir prescrire des médicaments alors que les autres thérapeutes n'utilisent que la parole. Sa consultation est remboursée par la Sécurité sociale. Le psychologue a suivi une formation universitaire en psychologie. Il est diplômé d'un DESS ou d'un DEA de psychologie, Bac plus 5. Son champ d'intervention couvre différents secteurs, santé, éducation. Il peut pratiquer des thérapies analytiques, comportementales. Les consultations des psychologues peuvent être prises en charge par la Sécurité sociale sous certaines conditions. Le psychanalyste peut être psychiatre ou psychologue. Il n'existe pas de diplôme d'État reconnu. 3 conditions sont néanmoins essentielles pour user du titre. Il doit avoir suivi lui-même une analyse, avoir été formé à la théorie analytique de Freud et de Lacan, et être affilié à une société ou une école psychanalytique qui supervise sa pratique. Le psychothérapeute est un psychiatre, un psychologue ou une personne formée dans des écoles dites privées. Il pratique les thérapies cognitives et comportementales, TCC, mais aussi des techniques de relaxation, d'expression corporelle, de jeu de rôle, etc. Selon Pierre Angèle, mieux vaut s'assurer que le psychothérapeute que vous avez choisi possède bien des diplômes. En effet, jusqu'en 2003, le titre de psychothérapeute n'était pas réglementé. N'importe qui pouvait s'installer en tant que tel. Bernard Accoyer, actuel président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, dépose alors un amendement visant à réglementer l'usage du titre de psychothérapeute afin de limiter le charlatanisme. Objectif, créer un registre national des psychothérapeutes dans lequel sont inscrits, de droit, psychiatres, psychologues et psychanalystes. Le texte exigeait aussi une formation minimale en psychopathologie clinique. Dans le milieu psy, ce projet de réglementation a suscité une telle polémique que 2 ans après, le débat n'est toujours pas tranché.
2. Domaine, science. Sujet 2. Page 200, document sonore numéro 12, activité 215.
C'est une première mondiale. Dimanche 27 novembre 2005, une femme s'est réveillée avec le visage d'une autre. Enfin presque. Elle a en fait subi une greffe partielle de la face qui ne concerne que le nez, les lèvres et le menton. Mais tout de même, pour ceux qui se souviennent du film Volte-face avec Nicolas Cage et John Travolta qui échangent leur visage au cours du film, la transplantation d'un visage prélevé sur un cadavre vers une personne vivante ne fait plus partie du domaine de la science-fiction, mais bien de celui de la réalité. Et ce sont des chirurgiens français qui ont pratiqué cette opération. Avec nous donc, les professeurs qui ont réussi cet exploit. Tout d'abord, le professeur Henri de Frémont, spécialiste de chirurgie maxillofaciale au CHU d'Amiens. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Pascal Lefébure, chef de service de chirurgie à l'hôpital de Lyon.
Bonsoir.
Nous accueillons également le professeur Saïd Boutaïa, membre du comité consultatif national d'éthique. Car comme vous le savez, cette intervention à haut risque a suscité une véritable polémique au sein du domaine médical. Professeur Boutaïa, bonsoir.
Bonsoir.
Notre émission de ce soir sera donc consacrée aux dimensions médicales, psychologiques et éthiques de cette première mondiale. Mais en premier lieu, retour sur l'événement qui a fait couler tant d'encre dans la presse. Professeur de Frémont, beaucoup de personnes s'interrogent. Cette greffe partielle de visage était-elle la seule option thérapeutique ?
Oui, absolument.
Nous avions en face de nous une patiente qui était défigurée après avoir été mordue par son chien et qui ne pouvait pas être réparée par une technique conventionnelle.
Ça m'étonnerait bien. Pourquoi cette patiente n'aurait pas pu être traitée par des procédés plus conventionnels? Sa vie n'était pas menacée, que je sache. Et aucune tentative de reconstruction classique n'avait été tentée. Vous étiez dans la pure expérimentation.
Le recours à cette technique s'est imposé d'emblée à l'équipe chirurgicale comme étant le moyen le plus approprié. Et nous avons sollicité l'avis de plusieurs experts qui nous ont confortés dans notre opinion. Compte tenu du type de lésion faciale, aucune chirurgie réparatrice classique par autotransplantation de tissu n'était à même de transformer son état. Et donc, seule une allogreffe partielle de la face pouvait permettre de réduire son handicap.
Oui, et quand elle a enlevé son masque, je n'ai plus d'hésitation. Si ça avait été une de mes deux filles, ça aurait été la même chose. Nous, médecins, face à cette situation, notre devoir, c'est de tout faire pour notre patiente. En plus, chaque jour, Isabelle voyait son ouverture buccale diminuer. L'évidence s'est imposée. Seule une transplantation faciale pouvait résoudre son problème.
Et vous étiez vraiment sûr que la patiente possédait bien le profil psychologique pour supporter une telle intervention ?
Cette question était en effet centrale. Était-ce la bonne candidate ? Pouvait-elle le supporter ? Nous nous sommes interrogés tous les jours durant 6 mois. Mais sa force de caractère et sa solidité psychologique nous ont rassurés.
Mais cette femme prenait des antidépresseurs et des anxiolytiques. En plus, elle fumait encore 2 paquets de cigarettes par jour. Et vous avez jugé que c'était elle la bonne candidate.
Mais avant d'être opérée, elle se passait de tout médicament et elle a été suivie par plusieurs équipes d'experts psychiatres. Elle a également décidé d'arrêter de fumer. Je le dis nettement, elle est devenue le chef d'orchestre de sa propre reconstruction physique et psychologique.
Mais si elle peut supporter les conséquences psychologiques de son opération et de son nouveau visage, en dites-vous autant de sa capacité à supporter les assauts médiatiques dont vous l'avez entourée ?
Attendez.
Pour ce qui a trait aux problèmes médiatiques, je peux assurer que nous nous sommes entourés du maximum de protection. Mais je vous concède que je ne sais pas si elle sera capable de répondre à toutes les sollicitations dont elle sera l'objet. Ces interrogations dépassent le strict champ médical et on ne peut y répondre a priori.
Attendez, professeur Boutaïa, nous en parlerons tout à l'heure de cette médiatisation. Mais revenons à l'opération, si vous le voulez bien. Professeur Lefebure, expliquez-nous assez simplement en quoi a consisté cette intervention.
Eh bien, cette opération est la plus complexe du genre jamais entreprise. Nous avons tout d'abord effectué de manière chirurgicale une dissection sur la donneuse en état de mort cérébrale depuis 6 heures. Nous avons délimité les zones faciales à prélever, c'est-à-dire le triangle menton, lèvres et pointe du nez, et nous avons retiré d'un seul tenant la peau et la graisse attenante, les muscles, les veines et les os du visage sur cette personne. Nous avons ensuite greffé l'ensemble de ces composants sur notre patiente, la receveuse. Cette deuxième partie de l'intervention a duré 15 heures. Elle est très complexe car il faut veiller à bien reconnecter les terminaisons nerveuses entre elles et les vaisseaux sanguins. Entre eux. L'enjeu principal est de bien vasculariser le greffon. Il s'agit là de techniques de microchirurgie très avancées. Et puis, tout à la fin, nous avons reconstitué les tissus de la peau depuis le menton jusqu'à la racine du nez. En fait, on peut dire que l'opération s'est déroulée dans des conditions quasi parfaites et la patiente s'est remise très rapidement de l'opération.
Alors justement, parlons de la patiente. Tout n'est pas terminé pour elle, bien au contraire. Que va-t-il se passer maintenant ?
Eh bien, après la greffe, nous avons mis en place un traitement anti-rejet. Vous devez savoir que les risques que l'on redoute le plus souvent sont la survenue de rejet du greffon et les effets secondaires liés au recours d'un traitement immunosuppresseur sur le long terme. Pour le moment, tout va bien.
Vous oubliez de dire qu'il y a quand même eu un épisode de rejet à la 3e semaine.
Oui, monsieur Boutaïa, mais il a pu être contrôlé et la situation est revenue à la normale. Bien sûr, on ne peut absolument faire aucun pronostic pour l'avenir, mais aujourd'hui, la situation est favorable. Et si elle continue dans cette voie, le traitement immunosuppresseur sera allégé progressivement.
J'espère en tout cas que la patiente a bien compris que le traitement immunosuppresseur est à vie et qu'il existe des risques de rejet qui sont de l'ordre de 10 à 30% durant les 10 années suivant la greffe.
Toutes les dispositions ont été prises pour que la patiente soit informée très clairement et très complètement de l'intervention chirurgicale et des risques psychologiques et des contraintes qu'elle engendre.
Je persiste à penser que cette greffe de visage était déraisonnable car cette alternative ne permet pas de revenir en arrière. En cas de rejet ou d'infection, cela supposerait l'ablation des autotransplantations subies auparavant. Alors le remède serait pire que le mal.
Je tiens à ajouter que plus de 2 mois après l'opération. La patiente montre des signes de récupération de la sensibilité. On a pu constater qu'elle va très bien au plan médical et psychologique, et c'est le plus important.
Alors, je crois savoir que la patiente se trouve à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon pour 6 semaines. Qui fait-elle ?
Elle y suit une rééducation. Des kinésithérapeutes, habitués à la chirurgie faciale, ainsi que des orthophonistes, l'aident à retrouver au plus vite l'élocution et toutes les fonctions labiales. Elle bénéficie en plus d'un soutien psychologique.
Et maintenant, tout risque de rejet est-il écarté ?
Non, et il ne le sera jamais. On sait que le 3e mois est un cap difficile. On est donc particulièrement vigilant.
Ce n'est que dans les 12 à 18 mois qui suivent la greffe que le résultat de cette première sera évalué.
Bien. Alors parlons à présent de la polémique qui a enflé suite à cette greffe de visage. Professeur Boutaya, cette première mondiale est très controversée par de nombreux spécialistes. Pourquoi ?
Mis à part les énormes risques encourus, il faut également penser aux conséquences psychologiques d'un tel geste. En effet, comment est susceptible de réagir un individu qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un nouveau visage ? Et il ne faut pas oublier non plus l'entourage du patient qui est habitué à le voir avec son ancien visage. Et il faut enfin imaginer le choc de l'entourage de la personne qui a généreusement donné son visage et qui retrouve en quelque sorte une personne ressuscitée.
Allons, allons, vous savez aussi bien que moi que le visage greffé ne ressemblera pas à celui de la personne décédée. Tout simplement parce que l'ossature du receveur est conservée. Le résultat final ne ressemble ni au visage du donneur, ni au visage du patient avant le traumatisme. En 2 mots, même si l'on vous greffait le visage de Brad Pitt ou de Jennifer Lopez, vous n'auriez aucune chance de ressembler à votre star préférée. Quant à la crise d'identité quasi inévitable, les patients concernés la vivent déjà.
En tout cas, j'estime que le changement de visage d'un individu sur le plan éthique n'est pas acceptable.
Vous ne croyez pas que les grands brûlés et les patients qui présentent un visage difforme peuvent mettre un terme à leur cauchemar grâce à ce genre d'opération ? Enfin, Monsieur Boutaya.
Mais dans ce genre de cas, on estime qu'il est impossible pour le patient de donner un consentement authentique, compte tenu des risques et de l'impossibilité de garantir le résultat final. On estime plutôt que la demande pour une allotransplantation de la face correspond en fait à une demande des chirurgiens soucieux de mettre au point cette technique.
Ne s'agit-il pas plutôt de rivalité entre médecins ? De réels problèmes déontologiques existent-ils ?
Bien sûr que oui ! Vous n'avez qu'à voir l'emballement médiatique de cette première transplantation partielle de visage par les équipes hospitalières, loin du principe de précaution. 3 mois avant l'intervention, le professeur De Frémont avait négocié les contrats d'exclusivité avec Paris Match pour des photos de la patiente et un documentaire tourné pendant l'opération.
Ce genre d'intervention est spectaculaire et attire forcément l'attention des médias. Donc, nous avons voulu protéger la patiente de dérives médiatiques.
C'est surtout le début inquiétant d'une médecine spectacle. Et quels seront les effets de cette surmédiatisation sur la santé de la receveuse, dont l'état psychologique est déjà mis à rude épreuve ? Je crois savoir qu'elle demande maintenant qu'on la laisse en paix, qu'elle se sent bousculée et qu'elle veut qu'on laisse sa famille en paix.
Tiens, vous lisez les journaux.
Je vous en prie. Bon, en plus, le principe de l'anonymat a été bafoué. Moins de 2 semaines après la greffe, des journaux britanniques ont révélé l'identité de la femme qui a donné le bas de son visage.
Cela a provoqué notre indignation, croyez-le bien.
Alors, malgré la polémique qu'a suscité cette opération, professeur De Frémont, envisagez-vous de greffer d'autres visages ?
Nous allons en effet demander au ministère de la Santé l'autorisation de pratiquer 5 nouvelles greffes du visage. On va faire en sorte que d'autres patients bénéficient de ce progrès.
Selon vous, de telles greffes ou des greffes totales de visage vont-elles se développer ?
Il n'y a pas de différence technique entre une greffe partielle ou totale. Nous sommes donc aptes à la mener, mais la greffe totale de visage est pour l'heure un fantasme. En plus, s'il y avait rejet, ce serait alors dramatique, car il faudrait enlever toute la face reconstruite.
En tout cas, si cette transplantation partielle de visage se révèle être un succès, alors elle pourrait être encouragée pour certains cas graves.
Mais la médiatisation de cette première ne doit pas faire oublier les risques liés au traitement immunosuppresseur ou au danger de rejet et les progrès des techniques de reconstruction traditionnelles.
Mais on voit mal comment refuser à certains cas graves une greffe totale de visage. Là encore, la dimension humaine de la médecine prévaut sur le progrès technique.